Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est peut-être le plus citoyen des actes. Donner ce qui n'a pas de prix, ne se fabrique pas et qui sauve des vies. Donner son sang pour des jeunes accouchés après une hémorragie de la délivrance. Donner son sang pour permettre de sauver un collégien renversé par une voiture sur le chemin de l'école. Rechercher un site de collecte pour la transfusion d'un enfant drépanocytaire dont le taux d'hémoglobine atteint un niveau dangereusement bas ou encore pour un patient traité pour une leucémie. Les besoins en produits sanguins sont multiples avec des pics à certaines périodes de l'année et dans les contextes où le don du sang repose sur le bénévolat, c'est le cas par exemple pour la France, au Canada, au Maroc, où ce liquide biologique vital et ses dérivés, plasma ou plaquettes, ne sont pas des marchandises, il est essentiel de rappeler régulièrement, inlassablement, que la mobilisation est indispensable. Expliquer aussi qui peut donner son sang, quelles sont les conditions requises, comment se déroule la collecte. Non, ça ne fait pas mal. Sauver une vie en offrant 45 minutes de disponibilité, 3 à 4 fois par an, quand notre santé le permet, et faire passer les messages pour que les donneurs passent à l'acte à l'occasion de la Journée mondiale du don du sang. Un acte volontaire, une action solidaire indispensable, des réponses aussi à des questions pratiques avec nous en studio. Docteur Pascal Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice médicale de l'établissement français du sang. La question clé de la gestion des stocks de produits sanguins, on retrouvera en ligne de Côte d'Ivoire le docteur Yaridjouma Kone, chargé de la gestion des produits sanguins au CHU de Cocody à Abidjan. Des associations de terrain mobilisées à Kinshasa. On va donner la parole à Jean-Marie Bayongwa, chargé de la communication aux dons bénévoles de sang au programme national de transfusion sanguine de RDC. Et puis en fin d'émission, on fera le point sur la semaine de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers de la peau. C'est entre les 13 et 17 juin. On est en plein dedans. On en parlera avec le docteur Isabelle Rousseau, dermatologue à Lille, membre du bureau des syndicats des dermatologues.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Pascal Richard, le don du sang, a priori une évidence. Pourtant, à plusieurs occasions au cours de l'année, cet acte de solidarité revient dans l'actualité. Il y a bien sûr cette journée mondiale, mais il y a aussi des alertes, des moments où les stocks diminuent et où vous, à l'établissement français du sang, vous lancez des appels pour que les donneurs se mobilisent parce que cette gestion du stock, c'est aussi un élément de votre activité.
Oui, la gestion du stock est extrêmement importante puisque le principal facteur de la sécurité transfusionnelle, c'est quand même qu'on puisse disposer de suffisamment de sang pour pouvoir soigner les malades correctement dans tous les établissements de santé partout en France. Et bien entendu, ça c'est un combat de chaque jour, puisque tous les jours il y a des patients, la maladie ne s'arrête jamais, donc il ne faut pas que le don du sang s'arrête et il faut que les donneurs restent tout le temps mobilisés. Et c'est d'ailleurs l'occasion aujourd'hui de remercier toutes ces personnes qui font ce geste et puis aussi de sensibiliser tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas et que nous souhaitons voir rejoindre les équipes des donneurs de sang parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un geste essentiel, c'est quelque chose qui est irremplaçable pour soigner les patients et les besoins, c'est tous les jours et on en a besoin si on veut que les hôpitaux puissent fonctionner.
On dit on en a besoin tous les jours et puis il y a des pics et on va dire que c'est inversement proportionnel. Le moment où on en a besoin le plus dans un pays comme la France avec nos saisons, nos contextes, nos vacances, eh bien c'est là aussi où les gens ont un petit peu tendance à moins donner parce qu'ils sont occupés ailleurs et qu'on ne va pas forcément au site quand on a plutôt envie d'aller à la plage. C'est pour ça qu'il faut dire attention, l'été, on ne baisse pas la garde.
Ah oui, c'est extrêmement important. C'est effectivement, il ne faut jamais s'arrêter parce que la maladie ne s'arrête jamais. Donc tous les jours, on a besoin de soigner des gens. Et puis les produits sanguins, donc on appelle ça les produits sanguins labiles, les produits qui sont issus des dons de sang, ont une durée de vie qui est très limitée. Par exemple, il faut savoir que les plaquettes sanguines ne dure que 7 jours. Donc dès lors que les gens arrêtent de donner en se disant « je donne, je pars en vacances, je donnerai quand je reviens », Eh bien non, pendant ce temps-là, tous les jours, il y a des patients qui ont besoin de ces plaquettes, dont la durée de vie n'est que de 7 jours malheureusement, alors qu'elle est de 42 jours pour les globules rouges. C'est un petit peu plus long, mais comme tous les jours on en a besoin, il faut tous les jours remplir les réserves.
Qui donne son sang aujourd'hui dans un pays comme la France, docteur Pascal Richard, bien sûr, parce que faut attirer des donneurs, il faut aussi attirer des nouveaux donneurs. Donc on sait que certaines catégories sont plus à même d'aller. Avant c'était plus dans d'ailleurs le cadre du travail, mais d'aller vers ces centres de collecte. C'est qui aujourd'hui qui donne? C'est une femme, c'est un homme, c'est un jeune, c'est un vieux, c'est qui?
Alors, les donneurs de sang, c'est tout le monde, en fait. Mmh. Ça représente toutes les catégories sociales et puis un petit peu tous les âges, avec une répartition assez équilibrée entre les hommes et les femmes. Et surtout, ce qui est très important, c'est que les jeunes, on a tendance à penser que peut-être ils ne donnent pas suffisamment, mais les jeunes représentent 30% des donneurs. Mmh. Donc, ça montre quand même que les jeunes sont intéressés par le don du sang. Et c'est important également qu'ils nous écoutent et qu'ils nous rejoignent, parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Parce qu'effectivement... Bah, ça veut dire aussi que 70% des donneurs ne sont pas jeunes, donc ont plus de 30 ans.
Il faut la relève.
Et donc, il faut une relève, évidemment, d'autant plus que ces donneurs plus âgés finissent par nous quitter pour des raisons de santé ou des raisons diverses, ou parce que la limite d'âge est atteinte, puisqu'on peut donner son sang jusqu'à 70 ans.
Justement, ces restrictions ici, qui peut donner, qui peut, pour des raisons de santé à l'inverse, ne pas le faire. Je cite en particulier, quand on revient d'une zone tropicale, est-ce qu'on a le droit de donner son sang?
Alors, ça dépend de quelle zone tropicale, mais enfin, je pense que vous pensez au paludisme.
Exactement.
Donc, quand on revient d'une région où le paludisme sévit, il faut attendre 4 mois avant de donner son sang. Ouais. Et lorsque vous revenez à l'issue de ces 4 mois, on fait des tests pour vérifier qu'il n'y a pas de problème pour que votre sang soit transfusé.
Alors, il y a des conditions aussi en termes de fréquence. Et à ce sujet, là encore, les informations qu'on donne concernent le cas français. Mais il y a cette répartition en fonction du genre, du sexe. On peut donner plus souvent quand on est un homme, on imagine bien sûr pourquoi, à cause des menstruations notamment et des risques d'anémie.
Voilà, exactement. Donc un homme peut donner 6 fois par an et une femme, effectivement, parce que les réserves en fer sont moins importantes chez les femmes ne peuvent donner que, entre guillemets, 4 fois par an, mais c'est déjà pas mal et on peut donner tous les 2 mois.
Et quelle que soit notre orientation sexuelle. Précisément, je disais tout à l'heure au début de cette émission, mais ce n'est pas dans tous les pays du monde. Hein. En France, la règle, c'est la gratuité, le bénévolat. C'est aussi une question d'éthique et c'est quelque chose qui est quasi, on va dire, docteur Pascal Richard, quasi philosophique.
Ah oui, ces principes du don du sang sont vraiment... c'est d'ailleurs un des combats portés par l'EFS au niveau mondial, qui est d'ailleurs repris par l'EMS, puisque les 4 piliers du don en France sont l'anonymat, le volontariat, le bénévolat et le non-profit. Et c'est effectivement extrêmement important, et aussi bien les professionnels de santé que les associations de donneurs ou les associations de patients, dans un pays comme la France, sont extrêmement attachées à ces valeurs et sont même attachées au fait de diffuser ces valeurs à travers le monde, parce qu'elles sont importantes non seulement d'un point de vue philosophique, mais aussi nous pensons que ces valeurs sont aussi extrêmement importantes pour garantir la qualité et la sécurité du sang, en ne biaisant pas justement le fait que des personnes qui peut-être seraient à risque fasse un don de sang.
Alors, ces témoignages, on va les entendre au cours de l'émission, des auditeurs qui nous appellent pour expliquer, par exemple, pourquoi ils donnent leur sang. L'utilisation des poches de sang, on imagine bien sûr qu'il y a des maladies au long cours, il y a l'urgence. Est-ce qu'on a une idée vraiment de cet usage? Est-ce que ça dépend des périodes de l'année? Est-ce que ça dépend des lieux? Comment ça se passe, cette répartition?
Effectivement, ça peut dépendre des périodes de l'année et des lieux. Comme on l'a dit, il y a... En fait, le plus gros de l'utilisation, c'est quand même pour des pathologies chroniques qui demandent des pathologies chroniques ou durables en tout cas, ou qui vont demander un apport régulier de sang. Alors, ça peut être des pathologies chroniques un peu semi-chroniques, comme des leucémies, par exemple, ou des cancers où les gens vont avoir besoin de sang pendant les phases de traitement. Ça peut être des pathologies vraiment chroniques. Et puis, en particulier, dans une émission comme celle-ci, les gens connaissent bien le problème que représente la drépanocytose, aussi la thalassémie. Donc, c'est vrai qu'en particulier, les drépanocytaires, dans des régions comme l'Île-de-France, c'est quasiment 10% des besoins de sang. Donc, c'est extrêmement important. Après, on va avoir, bien sûr, toutes des pathologies comme des chirurgies hémorragiques, des interventions, les accidents de la route, effectivement, évidemment. Et puis, alors, un peu moins en France, mais quand ça se produit On sait que ce sont des besoins extrêmement importants. Il y a la situation des hémorragies de la délivrance, qui sont des situations où les hémorragies sont en général... L'expression médicale, c'est cataclysmique. Donc, c'est vraiment pour dire à quel point ce sont des hémorragies importantes qui vont demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de sang.
Alors, important de parler de ces besoins quantitatifs, mais aussi des conditions de la façon dont le sang est collecté. En fait, ça dépend du produit sanguin. Ça va se passer différemment en fonction du produit collecté.
Il y a différents types de dons. Il y a le don que tout le monde connaît, qui est le don de sang total. Alors, le don de sang total, comme ça l'indique, on prend tous les composants du sang, c'est-à-dire qu'à partir de ce don, on va fabriquer des globules rouges, des plaquettes et du plasma. Ça va permettre, donc, à partir d'un don, de sauver 3 vies. Et donc, chaque année, comme ça, il y a 500 000 patients qui bénéficient de ces dons de sang et 500 000 patients qui vont également bénéficier de produits qui sont fabriqués à partir du plasma, qui là va être donné à partir d'autres dons, plutôt à partir de dons qu'on appelle des dons d'aphérèse, où on va prélever uniquement le plasma. C'est-à-dire que le sang est prélevé, ça passe dans une machine, et on restitue au donneur ses globules rouges et ses plaquettes. Et on peut avoir également à peu près le même type de don d'aphérèse, mais pour prélever uniquement des plaquettes, et à ce moment-là, on rend au donneur ses globules rouges et son plasma.
Et c'est vrai qu'il faut faire parfois face à certaines réticences, docteur Pascal Richard. Sur la page Facebook de l'émission, une auditrice du Tchad, Judita, écrit, je lis son message, « Moi, j'ai peur de donner mon sang, j'ai peur de me sentir mal après, d'avoir des maux de tête. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la rassurer ?»
Alors déjà, la peur, c'est un peu normal parce qu'effectivement, on ne connaît pas et on imagine assez volontiers que des personnes puissent avoir peur de la piqûre. Ce n'est pas quelque chose d'anormal en soi. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que on va vérifier. Lorsque vous venez donner votre sang, donc après la période d'accueil, il y a un entretien qui permet de vérifier que le don de sang déjà ne va pas être un problème pour votre santé. On va vérifier que justement, vous êtes vraiment en condition pour pouvoir supporter le don, que votre tension est correcte, que vous n'avez pas de problèmes médicaux particuliers qui pourraient engendrer un risque. Donc une fois que cette étape-là est passée, effectivement, on va passer au don de sang proprement dit. Et bien sûr, il y a une piqûre, mais c'est une piqûre qui... C'est pas plus compliqué que lorsqu'on fait une prise de sang. En fait, ça fait très peur aux gens parce que dans l'imaginaire des gens, les gens imaginent la poche, etc. Mais finalement, la piqûre en soi n'est pas, c'est pas pire qu'une prise de sang, et c'est extrêmement bien toléré, en particulier lorsque toutes les règles sont respectées. Et c'est important que les personnes, d'ailleurs, on le fait pour tous les dons de sang en France, que les personnes s'hydratent correctement. Pendant le don, donc on fait boire de l'eau aux personnes pendant le don.
Et la collation.
Non, pas seulement la collation, également des exercices musculaires pendant le don qui sont extrêmement importants pour éviter le risque de malaise après, parce que ça stimule la circulation sanguine. Et puis ça joue aussi sur certains facteurs psychologiques. Et puis évidemment, il y a après un temps de surveillance après le don, qui est aussi un temps convivial. C'est la pause à plus où on vous sert une collation et ça dure pendant 20 minutes. Vous restez donc sous la supervision du personnel de collecte ou des bénévoles, parce qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles qui participent aux collectes en France. Et cette journée, c'est aussi l'occasion de les remercier. Donc pendant ce temps-là, on va vérifier effectivement que tout se passe bien et au moindre problème, vous allez être pris en charge. Donc non, contrairement à une idée reçue, le don du sang, dès lors que tous les critères de sélection sont vraiment bien respectés, ne posent pas de problème et sont dans la très grande majorité des cas extrêmement bien tolérés. Alors je ne sais pas si ça peut aider cette auditrice, mais moi je sais que la première fois que j'ai donné mon sang, j'avais très très peur. Et puis en fait, quand j'ai donné, je me suis dit « Ah bon, c'est que ça, finalement. » Et c'est ce que disent tous les donneurs, c'est que dès qu'on franchit le pas pour faire le geste, on se dit « Finalement, c'est tout. » Et on se dit « J'aurais peut-être dû le faire avant. »
Et c'est vraiment ce qu'on entend dans les témoignages, c'est que on y va une fois et après c'est 2-3, puis ça devient une très très bonne habitude. Docteur Pascal Richard, on part maintenant pour la Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et en ligne avec nous, docteur Yaridjouma Kone, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Alors monsieur, vous êtes chargé de la gestion des produits sanguins au CHU, au CHU de Cocody. Comment définir ce rôle que vous tenez au sein de ce grand hôpital d'Abidjan?
Bon, il faut dire que pour ce qui est de la distribution des produits sanguins, Depuis octobre 2020, il y a eu des modifications en fait dans la gestion des produits sanguins afin d'améliorer la traçabilité et surtout la sécurité transfusionnelle. Donc à ce niveau-là, le CNTS, qui est le Centre national des transfusions sanguines, est chargé en fait de produire les produits sanguins.
Oui.
Et est chargé également de la collecte et puis se charge donc de la distribution auprès des hôpitaux. Et chaque hôpital doit identifier donc un responsable en charge donc de la distribution des produits sanguins.
Et c'est vous, et c'est vous au niveau du CHU de Cocody. Alors, on l'a compris, les poches de sang qui sont collectées par le CNTS, qui arrivent dans votre structure hospitalière. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé, docteur Conné, de vous retrouver en situation de pénurie?
Oui, oui, ça arrive. On connaît chaque année des périodes de pénurie. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que la production locale des produits sanguins ne permet pas de répondre. Voilà, aux besoins. Donc, on n'arrive pas à satisfaire entièrement les besoins. Donc, on connaît par moment des périodes de pénurie.
Ça veut dire que ce sont des problèmes chroniques au long cours ou c'est vraiment des moments particulièrement complexes qui reviennent d'ailleurs à la même échéance, on va dire, après certaines fêtes, après certains congés, comme ça peut se passer ailleurs. C'est quand qu'on manque de sang dans votre hôpital?
Bon, effectivement, ce n'est pas des périodes qui sont chroniques.
Oui.
Donc, il y a des périodes bien précises au cours desquelles très souvent donc, on se retrouve avec des besoins qui sont souvent énormes ou encore ce sont la disponibilité qui est faible.
Et vous faites donc, comment très concrètement? Imaginons, on a plusieurs salles d'opération, on a une maman qui vient d'accoucher, une autre qui arrive et il va y avoir une hémorragie ou il y a eu une hémorragie. Comment est-ce que vous faites? Vous êtes en rupture, vous agissez comment?
En général, lorsqu'on est en rupture, il y a toujours, une possibilité de lancer des commandes d'urgence.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on est en période de pénurie, on est obligé de passer tout de suite à une hiérarchisation des besoins.
D'accord.
Mais en ce qui concerne en fait la transfusion sanguine, il faut savoir qu'il y a des transfusions sanguines qui ne sont pas forcément indispensables. Voilà, chez les patients pour lesquels nous avons une anémie, par exemple, qui est chronique. Donc, lorsque l'anémie est bien tolérée en fait, chez ces patients-là. Donc, comparativement à une anémie qui est aiguë, où l'inflammation est brutale, les hémorragies et autres, on va prioriser ces patients-là. Donc, quand on est en pénurie, il faut dire qu'on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Donc, on va plus se focaliser en fait sur les situations d'urgence.
Est-ce que c'est complètement gratuit, docteur Conné, d'être transfusé dans votre hôpital ou est-ce qu'il y a un coût pour les patients?
La transfusion, l'acte transfusionnel, elle est gratuit. Il est gratuit. Mais la poche de sang est cédée au prix de 3 000 francs.
3 000 CFA. Justement, cet accès payant dans un pays comme la Côte d'Ivoire, alors que le don repose sur le volontariat. On a deux questions Facebook sur la page de Priorité Santé. Au Cameroun, Abakar demande « Pourquoi les hôpitaux vendent-ils le sang ?» donné par les volontaires. C'est vrai que cette question, elle est légitime. Si c'est gratuit quand on y va, pourquoi on le paye quand on le reçoit? Même si on imagine bien qu'entre les deux, il y a tout un traitement. Mais quand même, de son côté, Alain de RDC lui demande l'inverse. Pourquoi est-ce que les donneurs de sang ne sont pas payés alors qu'ils sauvent des vies humaines? Il y a d'autres auditeurs qui se plaignent de devoir payer alors que parfois, c'est la famille qui vient, qui donne son sang. Et après, par exemple, quand l'enfant, le cousin, l'oncle reçoit le sang de la famille, eh bien là, il doit payer. Qu'est-ce que vous leur répondez à toutes ces questions, docteur Conné?
Bon, je vais commencer par la troisième question déjà. Il faut dire que pour ce qui est des donneurs, les donneurs en général ne payent pas des sangs, les donneurs et les bénéficiaires. Mais les bénéficiaires sont bien identifiés, voilà, ce sont les ascendants directs. Donc, ce n'est pas les cousins, les cousines, les amis et autres. Donc, lorsque vous êtes en fait dans une situation où vous bénéficiez en fait de cette gratuité de dons, vous n'ayez pas la poche.
D'accord.
Donc, les donneurs non seulement sont priorisés lorsqu'ils sont dans un besoin, mais en plus, ils ne payent pas la poche.
D'accord, là, c'est différent.
Oui. Donc, la poche leur est cédée gratuitement. Maintenant, pour ce qui est des donneurs qui ne sont pas payés ou encore la poche des fonds qui est cédée, il faut dire que ce sont des décisions politiques. Donc, la poche des fonds, elle a un coût parce que quand on donne le sang gratuitement, il y a tout un traitement qui suit.
Bien sûr.
Donc, il y a un coût de production. Et le coût de production, il surpasse largement les 3 000 francs. Donc, c'est céder, je vais dire, un prix forfaitaire, voilà, de 3 000 francs. Donc, ce sont des décisions politiques qu'on respecte pour l'instant. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Hein. Mais depuis mars, le 8 mars exactement, 2022, que la poche des 100 est passée à 3 000 francs. Sinon, le prix, ça partait de 1 000 francs jusqu'à 25 000 francs.
Donc là, au moins, ça a été sanctuarisé, on va dire. Il y a un coût simple pour éviter ce genre d'abus qui peut d'ailleurs parfois tourner un petit peu, on va le dire, aux raquettes. Quand la vie est en jeu, réclamer 25 000 CFA à quelqu'un dans une telle situation, c'est vraiment quelque chose de condamnable. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un bon maillage du territoire ? On entend tous vos efforts, vous, docteur Conné, au niveau de cet hôpital d'Abidjan. Mais est-ce que c'est pareil quand on est à Mans, quand on est à Boaké ? Est-ce que c'est la même chose ?
Bon, je ne saurais répondre directement, mais il faut dire qu'en fait, les dispositions qui sont en cours, c'est depuis février 2016 qu'on a commencé à appliquer ces dispositions-là. Donc, il y a des hôpitaux encore qui traînent peut-être les pas. Mais il y a beaucoup de progrès. Surtout au niveau d'Abidjan, il y a beaucoup de progrès. Donc, il y a plusieurs hôpitaux qui font pareil. Donc, il reste un peu dans la mesure du respect, en fait, des législations en vigueur. Et je pense qu'avec tout l'appui du gouvernement qui nous est apporté actuellement, avec le temps, je pense que tout va rentrer dans l'ordre.
Pour poursuivre cette dynamique positive. Merci beaucoup, docteur Yarid Jouma Kone. Merci d'avoir été en ligne avec nous d'Abidjan. C'est vrai que la situation est fort différente par rapport au contexte français, docteur Pascal Richard, mais sur le fond, il y a quand même la même éthique et la même volonté de venir en aide dans l'urgence à tous les besoins.
Oui, j'entends ça, sauf que effectivement, là, il est question de dons familial ou de dons
qui n'existe pas, ce qu'on
appelle en France le don de compensation, qui n'existe pas en France. Justement, le principe du don en France, c'est qu'il y a un parfait anonymat, c'est-à-dire que chaque fois que vous donnez votre sang, vous ne savez pas du tout à qui le sang va être destiné. De même que lorsque vous recevez du sang, vous ne savez pas qui l'a donné. Potentiellement, tout le monde donne pour tout le monde.
Ça, c'est aussi une notion très, très importante. On part pour la RDC. On part pour la RDC. On retrouve Paul maintenant. Paul, bonjour.
Bonjour Caroline et bonjour aux auditeurs.
Alors, vous aviez envie de témoigner, Paul. Vous êtes non seulement auditeur de l'émission, mais aussi médecin et à vos heures, donneur de sang, donneur volontaire. Depuis combien de temps est-ce que vous donnez votre sang, Paul ?
Ça remonte à 2009. Que j'ai commencé à donner du sang. Essentiellement, j'étais interne et je faisais des dons de sang essentiellement en pédiatrie aux enfants. À l'époque, c'était les dons familiaux essentiellement et il arrivait fréquemment que la famille ne donne pas du sang. Donc, j'ai eu à donner comme ça. Il m'est arrivé de donner 5 fois l'an du sang essentiellement à mes patients.
Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Là, on est encore dans un autre niveau du don de personnes connues. C'est que vous êtes médecin, vous avez un petit enfant qu'il faut traiter. Ben, il y a pas de sang. Et donc, vous y allez. On va dire que là, le sacrifice, il est non seulement professionnel, mais aussi physique. C'est quelque chose qui peut sembler assez extraordinaire, mais c'est bien la réalité en RDC. Est-ce que vous êtes ensuite allé, non plus simplement à l'hôpital donner votre sang à vos patients, mais aussi sur des sites de collecte, comme ça se fait beaucoup plus traditionnellement?
Oui, en fait, j'ai eu à évoluer ensuite parce que j'ai quitté l'hôpital pour travailler davantage en appui au service de santé dans une ONG. Et à Goma, on a appuyé le centre de transfusion provinciale. Et là, c'était bien, c'est vers les années, il y avait la guerre à l'Est et il y avait des besoins énormes en produits sanguins, un peu comme aujourd'hui. Donc là, on avait des organisations qui étaient dans le cadre de la structure d'appui. Et j'ai donc commencé à faire des dons à travers des collectes mobiles. On allait dans les universités, les jeunes donnaient du sang. Et moi, à chaque occasion, je donnais aussi mon.
Est-ce que vous avez déjà entendu des préjugés, des fausses croyances au sujet du don du sang, Paul ?
Oui, ils sont les gens. Déjà, ma propre mère, quand j'ai commencé, j'étais jeune médecin, mais je vivais encore à la maison. Puis j'ai quitté, mais à chaque fois que je lui disais comment c'était ta journée, j'ai donné du sang, elle me disait, mais pourquoi tu donnes ton sang ? Donc ma propre mère était déjà...
Elle avait peur de quoi pour vous, votre mère, quand vous donnez votre sang ?
Une appréhension.
Elle avait peur de quoi ?
Je pense qu'elle avait peur que je me porte... que je me porte mal.
Oui,
elle croyait vraiment que je pouvais me porter mal. Mais je lui disais, maman, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, il y a plein de gens qui croient que donner du sang... récemment, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il ne peut pas donner son sang parce que c'est comme s'il transmettait son esprit à quelqu'un d'autre et qu'il ne sait pas ce que l'autre en ferait. Donc, il y a des idées totalement folles comme ça. Mais voilà, une dimension mystique. Mais il y en a d'autres, c'est simplement la crainte qu'ils se sentent mal. Je crois que c'est la plus importante.
Et pour vous, qu'est-ce qui peut être amélioré si vous aviez une minute pour faire un plaidoyer pour l'amélioration du sang en RDC, vous diriez quoi? Vous êtes médecin, donc vous avez aussi un regard là-dessus et vous êtes donneur, donc double regard. Allez-y.
Oui, en fait, la première, c'est que le programme a beaucoup évolué. On est passé des dons familiaux vers le don qu'on venait de décrire tout à l'heure,
oui.
C'est un don anonyme. C'est une très bonne chose, mais en même temps, on a eu des pertes en appui, notamment financier et organisationnel, matériel, la chaîne de froid. Et je pense que là, la RDC a perdu le gros financement qu'il avait du Global Fund à l'époque. Et depuis, je crois que le programme se porte mal. Donc, on a vraiment ce besoin de pouvoir appuyer, besoin en matériel, besoin en équipement et en intrants, parce qu'il faut des tests, il faut des poches. L'autre volet, c'est effectivement d'avoir une sécurisation de tout le dispositif avec le suivi de la sécurité transfusionnelle.
Oui.
Et une dernière chose, c'est vraiment mieux organiser les dons volontaires, communiquer avec les gens, leur expliquer que tout le monde peut se retrouver un jour dans la position d'avoir du sang. Ça peut nous arriver à nous tous et c'est pour ça qu'il faut créer une forte solidarité. J'ai aussi moi-même deux enfants qui sont rhésus négatifs. Donc l'un est, je crois, il est A négatif et l'autre est O négatif. Et j'ai une grosse peur. À chaque fois, je me dis si un jour l'un d'eux a besoin de sang, comme ce sont des groupes rares, j'ai toujours cette appréhension qu'il pourrait se retrouver et j'ai même envie de collaborer avec le centre de transfusion de Kinshasa pour créer une solidarité entre les donneurs rhésus négatifs, les identifier et créer une solidarité entre eux et facilement identifiable et qu'ils soient capables de donner du sang chaque fois que l'un d'eux en a besoin.
Merci Paul. Superbe témoignage et superbe ambition au niveau de Kinshasa. On vous souhaite une excellente journée, docteur Pascal Richard. On va se retrouver tout à l'heure, on parlera notamment des besoins spécifiques dans un pays comme la France, de groupes qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à trouver. On retournera en RDC d'ailleurs, ce sera juste après l'association Doja Cat avec The Weeknd pour ce titre « You Right ». Priorité santé sur RFI, journée mondiale du don du sang. Qui peut donner, pour quelle utilisation, comment améliorer la gestion des stocks en produits sanguins. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Pascale Richard, directrice médicale de l'établissement français du sang. On parle donc de ces besoins spécifiques qui peuvent être liés à l'appartenance ethnique, l'origine de certains patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, d'ailleurs, quand on vient de certaines régions du monde, on peut avoir besoin d'un sang spécifique ?
En fait, les groupes sanguins, donc il y a de nombreux groupes sanguins. Tout le monde connaît les quatre groupes AB, AB, O. Mais à côté de ça, il y a plein de groupes sanguins. En fait, il y a 250 groupes sanguins. Et chez les personnes qui doivent être transfusées régulièrement, il est important de pouvoir respecter tous ces groupes qu'on appelle, de manière un peu barbare, excusez-moi du terme, c'est les phénotypes. Et en fait, ces phénotypes, ils vont être très dépendants. Ça dépend, c'est des origines génétiques, donc ça dépend de l'histoire de la population, d'où on vient, de l'origine, des ancestralités. Donc il y a en fait des différents mélanges de populations. Et du fait des brassages de population et des migrations, en fait, les groupes sanguins vont être différents un peu partout dans le monde. Par exemple, il faut savoir qu'en Chine, si vous êtes au négatif, vous avez quasiment aucune chance de pouvoir être transfusé correctement. Donc, vous voyez, ça dépend des endroits. Et en particulier, il y a une zone où les groupes sanguins sont particulièrement diversifiés, c'est toute la partie africaine. Ce qui explique notamment que les patients drépanocytaires ont des groupes sanguins particuliers. Citer un exemple, c'est ce qu'on appelle le groupe du Phi, bon, peu importe, enfin, c'est un groupe parmi d'autres qu'on va retrouver chez plus de 70% des drépanocytaires, mais qui est présent chez moins de 1% de la population générale en France.
Ça veut dire que quand on appelle à la mobilisation, aussi on peut appeler parce qu'il y a des besoins supérieurs, des besoins transfusionnels pour les patients drépanocytaires. On sait très bien pourquoi, parce qu'il y a des problèmes au niveau de la composition de l'hémoglobine. Il faut du sang et il faut aussi que les personnes des mêmes groupes, des mêmes familles, de même origine, donnent aussi leur sang. C'est très important.
Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Si vous voulez, si on veut du sang qui soit du Phi-, on n'a que 2% de chances de le trouver dans la population générale. Et donc, par contre, évidemment, plus on aura de personnes issues de la diversité, qui représentent l'ensemble de la collectivité française, plus on aura de personnes issues de la diversité qui viendront donner leur sang, plus on a de chances d'avoir dans nos réserves du sang qui soit aussi du Phi-, pour pouvoir aller soigner ces personnes. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais en fait, c'est ça, plus on est proche des personnes et plus on a de chances d'avoir des groupes comparables.
Et compatibles. Alors, on va retourner tout à l'heure en RDC, mais d'abord, on part pour l'océan Indien. On retrouve tout de suite à Madagascar, précisément à Voemar, Natacha. Bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour,
vous, Natacha.
Bonjour et bonjour à ceux qui écoutent l'émission Priorité Santé.
Vous avez déjà donné votre sang plusieurs fois. Dans quelles circonstances ?
À chaque fois, c'était pour un proche.
Oui.
J'ai déjà donné mon sang 3 fois. La première fois, c'était en 2013. Mmh. C'était pour une amie qui avait un problème de moelle osseuse. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais donneur universel. Et puis, en 2018, j'ai donné mon sang à un membre de famille qui avait problème d'hémorragie à l'estomac. Et l'année dernière aussi.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous donnez votre sang ? Parce que vous avez la particularité de connaître les personnes qui reçoivent ce sang. Donc, est-ce que ce n'est pas d'ailleurs un petit peu compliqué ? Est-ce que vous vous demandez après, est-ce qu'ils vont me remercier ? Est-ce que je vais être gênée ? Ou est-ce que cette question, elle ne se pose pas vraiment ?
Non, en fait, ici chez nous, il n'y a pas de banque de sang.
Oui.
Donc, c'est quand des amis ou des connaissances.
On n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix.
Ouais. Et oui. Non, c'est pas que j'ai pas le choix, mais on m'a dit que sauver une vie, c'est comme si vous sauvez toute l'humanité. Donc, c'est pour moi une façon de sauver quelqu'un. Si ça peut l'aider à guérir, donc moi, j'hésite pas à donner mon sang.
J'ai bien compris. J'ai pas dit que vous n'aviez pas le choix parce que vous faites une démarche absolument exceptionnelle, hein, Natacha, en donnant votre sang. Mais c'est que dans les hôpitaux, on n'a pas d'autre choix que de demander aux familles de donner ce sang. S'il y a des gens qui vous écoutent autour de vous à Madagascar, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire justement pour qu'à leur tour, elles aillent donner leur sang et fassent preuve comme vous de cette immense générosité ?
Donc, la plupart du temps, les gens, ils ont peur de donner leur sang parce qu'ils pensent que ça fait mal. Donc, si mon témoignage pourrait changer quelque chose, je dirais que n'ayez pas peur, ça fait pas mal. Et en plus, un médecin m'a dit que c'est bon pour la santé de donner son sang de temps en temps. Je sais pas, hein, mais il m'a dit ça.
Mais en tout cas, vous entendre, vous êtes en pleine santé avec ce sourire dans la voix. On vous remercie beaucoup, Natacha. Excellente journée à Madagascar. Une autre donneuse des femmes généreuses, ça vous étonne parmi nous. Rosine, bonjour. Bonjour, Rosine.
Bonjour, Caroline.
Alors, on vous retrouve au Cameroun, à Garoua. Vous aussi, votre premier don du sang, ça a été pour quelqu'un de la famille?
Oui, ça y est, c'était en novembre 2009.
Oui.
C'était ma petite sœur. Mmh. Oui, bon, elle était en manque de sang, donc je me suis portée volontaire pour lui donner de mon sang.
Et c'est l'hôpital qui vous a demandé ce geste ou c'est vous qui l'avez accompagné directement pour aller lui donner votre sang? Comment ça s'est passé?
Bon, on nous a dit qu'elle n'avait pas de sang, il faut un donneur. Oui. C'est comme ça, c'est ma maman qui devait donner de son sang. Et vu son état général, comme elle est âgée, elle ne pouvait pas donner de son sang. Bon, c'est ce que je me suis dit. Comme ça, j'ai dit comme ça, je suis volontaire, je peux donner de mon sang à ma petite sœur.
Et depuis, vous avez renouvelé l'expérience? Vous avez donné à nouveau votre sang, Rosine?
Oui, j'ai renouvelé l'expérience, c'était en 2021, lors de la journée mondiale du don de sang. Bon, la banque de sang était venue au campus pour la collecte de sang. Comme ça, j'ai aussi fait le geste.
Donc là, pour quelqu'un d'anonyme que vous ne connaissiez pas, donc vous donnez aussi bien pour la famille que pour des inconnus, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment inscrit en vous, ce don du sang.
Oui.
Vous ressentez quoi quand vous donnez votre sang?
Bon, comme on a l'habitude de dire, donner de son sang, c'est sauver des vies. Je pense que c'est un sentiment de fierté.
Donc, il faut dire ça aux personnes qui ont peur, transformer une appréhension qui n'est pas justifiée parce qu'on a bien compris ça ne fait pas mal, en fierté, c'est quand même un sentiment extrêmement positif. Docteur Pascal Richard, on comprend bien que cette situation-là, on a une pénurie faute d'organisation, en fait, puisque les systèmes de santé ne sont pas là pour prévoir tous ces besoins en sang. Mais en février dernier, dans un pays comme la France, il y a eu un grand appel aussi parce que là aussi, il y avait des manques. Est-ce que tout cela, ça remet parfois en cause cette philosophie dont on parlait en première partie d'émission, philosophie de gratuité ou de bénévolat, ou pas du tout? On persiste, on persévère, on fait toujours plus pour mobiliser les bénévoles?
Non, on continue à chercher à mobiliser les bénévoles parce que c'est extrêmement important et c'est un pilier important d'ailleurs pour ce qu'on appelle l'autosuffisance. Il faut savoir que justement les pays où les donneurs sont rémunérés ou les pays dans lesquels le don se fait pour des proches ou des personnes connues ont connu beaucoup plus de difficultés que la France, notamment à l'occasion de la crise Covid. Et en fait, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont beaucoup en lien avec la crise du Covid qui n'est malheureusement pas vraiment terminé, en tout cas dont on sent encore les effets dans les modes de vie qui ne se sont pas encore vraiment, comment dire, l'habitude de don ne s'est pas forcément vraiment réinstallée chez les gens qui avaient l'habitude de donner. Et par ailleurs, les modes de vie ont un petit peu changé et donc il faut aussi que nous, EFS, nous nous adaptions et que les personnes également s'adaptent à de nouvelles choses. Par exemple, nous faisions beaucoup de collectes en entreprise ou dans les universités, les établissements scolaires. Et c'est vrai qu'avec le Covid, maintenant, il y a beaucoup moins de personnes qui sont présentes sur place, puisqu'il y a le télétravail, l'enseignement à distance. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile d'organiser des collectes où, lorsque nous les organisons, bah, on a aussi beaucoup moins de personnes présentes sur place. Donc, beaucoup moins de personnes qui vont se présenter aux collectes.
Alors, ça a changé comment, du coup? Parce qu'il faut toujours du sang.
En tout cas, nous, on essaie de se réadapter. C'est notamment pour ça que, depuis le Covid, nous avons mis en place tout le système du rendez-vous pour le don de sang. Et donc, les donneurs peuvent, en allant sur notre site, dondesang.efs.sante.fr, trouver les lieux de collecte, prendre un rendez-vous pour aller donner au plus proche de chez eux. En fait, c'est une des nouvelles modalités d'organisation. Mais c'est vrai que c'est important que les gens continuent à se mobiliser, que les gens entendent ce message. Et quand on entend des messages comme ceux qui viennent d'être faits par nos collègues africains et par ces donneurs de sang africains qui ont quand même des expériences incroyables, je trouve que ça doit quand même aussi nous interroger, nous dire à quel point nous, on a de la chance d'avoir un système qui est organisé et où on peut se dire que le jour où on a besoin, on va pouvoir trouver les ressources nécessaires pour être transfusé si on en a besoin. Mais pour ça, il faut effectivement aussi que chaque fois que l'on peut, tant qu'on est en bonne santé, qu'on fasse ce geste de donner son sang.
Diversifier justement les donneurs, j'imagine que c'est un combat de tous les jours, parce on l'a entendu d'ailleurs avec ces témoignages, on a les fidèles, on a ceux qui reviennent, hein, les habitués, ils ont un abonnement, don du sang. Comment est-ce qu'on va chercher les nouveaux? Comment on fait ce recrutement?
Le recrutement, il passe d'une part par des actions de communication, par le fait d'en parler, comme dans l'émission
aujourd'hui. On est en train de le faire, ouais.
Ça passe aussi par des campagnes de communication. On a des diffusions sur différentes antennes ou par voie d'affiche. Ça passe aussi par le bouche à oreille, aussi par les personnes qui vont mobiliser des personnes qu'elles connaissent, justement, en les entraînant au don du sang. Ça passe aussi beaucoup, et ça c'est très important de le dire, parce que cette journée, c'est aussi leur journée, ça passe aussi beaucoup en France par les associations de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui se mobilisent pour le don de sang, et qui nous aident, et qui notamment vont faire parler des collectes, et puis aussi parce que il n'y a rien de plus convaincant, je pense, qu'un proche qui vous entraîne, et donc ils vont aussi mobiliser autour d'eux les gens pour venir au don du sang. Donc c'est l'ensemble de toutes ces actions qui permettent de mobiliser.
Vous voyez ça d'ailleurs au niveau des donneurs, une sorte de filiation quand les parents, les grands-parents donnaient, les enfants donnent?
Oui,
une tradition familiale.
Oui, ça c'est souvent assez ancré. Quand les parents sont des donneurs très réguliers, en général, les enfants suivent.
C'est le meilleur de les éviter dans ces cas-là. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Pascal Richard, d'avoir répondu
à notre
invitation.
Mais on voit aussi l'inverse. On voit aussi des jeunes qui se mettent à donner et qui incitent leurs parents à donner. Ou lorsque, je sais qu'à une époque, j'allais par exemple faire des sensibilisations dans les écoles, et c'est assez marrant parce que quand on revient, on entend les enfants qui disent « Ah ben moi, je suis rentrée », puis j'ai dit à mon papa, ma maman. Et en fait, ça les mobilise aussi.
Il ne faut pas ignorer l'influence des enfants sur leurs parents, et on le sait bien. Merci donc, docteur Pascal Richard, d'avoir répondu à notre invitation. Pour la petite histoire, alors si le 14 juin est dédié à cette mobilisation solidaire et citoyenne, c'est parce que c'est le jour de la naissance du biologiste autrichien Karl Landsteiner, qui est le premier à distinguer les groupes sanguins, prix Nobel de médecine 1930. C'est un monsieur qui n'a pas perdu son temps, puisqu'on lui doit les groupes sanguins, mais aussi la découverte du poliovirus et du facteur Rhésus, ça mérite un petit peu de reconnaissance.
Priorité santé sur RFI.
C'est la semaine de prévention et de sensibilisation au dépistage des cancers de la peau, du 13 au 17 juin. Et pour en parler, nous sommes maintenant en ligne avec le docteur Isabelle Rousseau. Docteur Rousseau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes dermatologue à Lille, dans le nord de la France, membre du bureau des syndicats des dermatologues. Alors bien sûr, le dépistage est essentiel, parce qu'aujourd'hui, malgré les campagnes de prévention, les cancers de la peau touchent une partie importante de la population.
Oui, à peu près 100 000 nouveaux cas par an. Et ça augmente toujours. Oui, bien sûr. Et c'est surtout à cause de l'exposition au soleil.
Des cancers au pluriel, avec évidemment différents niveaux de gravité. Est-ce que vous pouvez nous faire juste un petit rappel des principales familles de ces cancers cutanés, de ces cancers dermatologiques?
Vous avez surtout trois. En fait, vous avez l'épithélioma basocellulaire, qui est en fait le moins grave. Bon, il faut l'enlever, mais si vous voulez, ça ne métastase pas, ça ne part pas ailleurs. Après, vous avez l'épithélioïde, là, qui est quand même beaucoup, beaucoup plus grave, si vous voulez, parce que c'est un cancer qui va métastaser, qui peut tuer. Et après, vous avez bien sûr le redoutable mélanome.
Cette exposition au soleil que vous avez citée très brièvement, on va y revenir plus longuement, si vous le voulez bien, parce qu'on sait qu'il y a des campagnes de prévention, des campagnes de publicité et même du marketing de produits solaires, mais ça n'empêche pas, ça reste le facteur majeur de cancer de la peau.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, en fait, le soleil va comment va pénétrer dans la peau, les UV vont pénétrer dans la peau et vont créer des dommages au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN des cellules qui vont être un peu à la fois irréparables. Et après, de cette loss, si vous voulez, bon, voilà, le champ de cancérisation va augmenter.
Des messages essentiels en particulier pour les enfants et pour leurs parents.
Alors, oui, parce qu'on sait très bien que si on a eu beaucoup de coups de soleil, si on s'est exposé pendant l'enfance, on a de grandes chances d'avoir des cancers par la suite. Hein, on a ce fameux capital soleil, si vous voulez, qui est un peu à la fois, va être effrité et qui va conduire, si vous voulez, aujourd'hui, on voit des gens de 30 ans qui ont des cancers, alors qu'avant, ça, on voyait surtout ça chez des gens de 70, 80 ans, si vous voulez, qui avaient passé un peu leur vie au soleil. Et aujourd'hui, à cause de cette exposition solaire, si vous voulez, voilà, on a des cancers de plus en plus jeunes, bien sûr.
Avec, on disait donc, messages pour les enfants, pour les parents, et d'ailleurs des messages qu'il faut rappeler, parce que si on se dit tout le monde est au courant des mesures de précaution, de prévention essentielles pour éviter une surexposition et les fameux coups de soleil, c'est toujours bon de les rappeler. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant, docteur Rousseau ?
Oui, bien sûr. Alors, pour les enfants, ne pas les exposer, les petits surtout pas. Les plus grands, s'ils jouent sur la plage avec un t-shirt protecteur, des lunettes de soleil, un chapeau, toujours bien faire attention, toujours, hein, et surtout s'exposer un peu à la fois. Si on a envie de s'exposer, il faut mieux s'exposer 4 fois un quart d'heure de la journée, une fois 1 heure. La peau a le temps de se reposer entre deux, donc c'est moins nocif. Il faut surtout éviter le soleil plein peau pendant trop longtemps.
Et qu'en est-il des cabines de bronzage ? On sait très bien que la réglementation a fortement changé à leur sujet. On en a vu beaucoup fermer les portes, mais il en reste encore. Est-ce qu'il y a des précautions particulières par rapport à ce souhait justement de bronzer en accéléré et sans soleil ?
Oui, alors il faut passer devant, il ne faut pas entrer. Parce que les cabines
c'est simple, hein, comme ça. Alors, par contre...
C'est des UVA. Ouais. Les UVA ne bronzent pas, si vous voulez. Ce sont les UVB qui font bronzage. Ouais. Les UVA, ça ne bronze pas, si vous voulez. Donc, au contraire, ça pénètre dans la peau et ça peut être très destructeur au niveau de la peau. Donc, les cabines de bronzage, c'est vraiment à proscrire, vraiment, hein, sincèrement. Hein.
À interdire vraiment. Et à proscrire. Par contre, quand est-ce qu'on va voir le dermato ? Quand est-ce qu'on va lui montrer d'un côté un grain de beauté, d'un côté peut-être une petite tache sur la peau ? Quand est-ce qu'il faut vraiment aller consulter ?
Alors, quand on a une petite tache sur la peau qui apparaît, qui ne guérit pas, il faut aller voir son dermato. Quand on a une tache foncée qui apparaît, il faut voir son dermato. Bon, il faut pas. Maintenant, on a quand même comme avec les médecins généralistes, parce que oui. Les dermatos, c'est pas évident. Mmh. On va voir son médecin généraliste. On peut faire, si vous voulez, des consultations, des visioconsultations avec un dermatologue qui pourra juger, si vous voulez, de la nécessité ou pas de consulter plus avant.
Et c'est vrai que quand on s'inquiète, maintenant, on a les smartphones. On peut prendre une photo pour voir s'il y a une évolution.
Tout à fait. Mais il faut vraiment, je veux dire, sincèrement, quand on a quelque chose qui apparaît de nouveau ou quelque chose qui se transforme, il faut vraiment consulter son médecin traitant d'abord et son dermatologue, vraiment.
Et en fonction aussi de la carnation, peau claire, peau foncée, est-ce que ces mesures, finalement, elles valent pour tout le monde ou certaines personnes doivent faire particulièrement attention ?
Alors, les mesures valent pour tout le monde. Toutes les peaux sont menacées. Mais bien évidemment, quand on a une peau claire, on est quand même plus sujet à avoir des coups de soleil et à avoir, bien sûr, des problèmes, bien sûr. Mais les peaux foncées sont aussi à protéger. Et elles doivent aussi se mettre de la crème et faire attention aussi. Il y a vraiment.
Bon sens quand on se met donc au soleil. Merci pour tous ces conseils, docteur Isabelle Rousseau. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À C'est tous à maquer, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Raphaël Lazizi avec nous aujourd'hui. Demain, dans notre émission, on va parler des conséquences de la guerre en Ukraine pour la santé des populations. Structures de santé inaccessibles ou détruites, accès aux médicaments, prise en charge des blessures et traumatismes liés au conflit. On se retrouvera à 9h10, temps universel. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et allez donner votre sang.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.